France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a Maëlie qui revient de l'école en disant qu'on lui a demandé si elle mangeait du caca. Il y a Cathy qui veut faire de la danse classique à qui on indique les cours de hip-hop. Il y a Ibrahima qui se fait contrôler parce qu'il fait son jogging en capuche. Il y a Oumarou qui laisse sa femme Blanche descendre de voiture pour réserver une chambre d'hôtel parce que franchement, vas-y toi, c'est tellement plus facile. Il y a Yannick qui dort avec la raquette d'Arthur H parce que c'est son seul modèle. Il y a Jean-Pascal qui dit qu'il a fait tout ce qu'on attend d'un noir. Le rap, le foot, les t-shirts. Ils sont incroyablement touchants, les témoignages que vous entendrez ce soir dans ce documentaire de France 2, Noir en France. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous en saisissez la teneur. Et vous qui êtes noir, vous vous êtes déjà reconnu. Déjà reconnu dans ce que l'une de nos invitées appelle les micro-agressions racistes. Parfois c'est inconscient, mais c'est toujours ravageur. Moi je me souviens d'Harry Roselmack, quand il travaillait ici, qui m'avait raconté qu'on lui demandait tout le temps « Mais d'où venez-vous ?» Ben je suis né à Tours. Et vous ? Stéréotypes, rapport au corps, et pourquoi pas le sens du rythme, tant qu'on y est. Mais heureusement, pas seulement. À l'image de nos invités de ce soir, vous verrez que ce documentaire qui est signé Alain Mabankou et Aurélia Perrault ne parle pas que de souffrance, il n'est pas victimaire, il parle aussi d'une France qui avance quand même, dont le regard a changé quand même. Les témoignages parlent de ce qui fait mal et il faut l'entendre, mais aussi il parle d'accomplissement de soi, d'ascenseur social, d'espoir, de fierté. Dans l'ambiance politique en ce moment, ces deux versions-là sont nécessaires. Venez comme vous êtes, en tout cas avec vos témoignages, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus. Le premier, c'est vous, Jérémy, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Fabienne, merci et félicitations pour vos émissions. merci également pour cette thématique. Moi je voulais dire que comme Harry Roselmack, on m'a toujours posé cette question d'où je venais, on m'a encore posé hier. Alors je suis métisse, j'ai toujours répondu finalement que je suis breton, d'origine bretonne, et ah, ça surprend toujours mes interlocuteurs. J'ai jamais mis les pieds en Afrique centrale. Donc ouais, je me sens davantage breton, hein, plus qu'africain. Au boulot, on m'a également dit, alors je suis journaliste, ça va peut-être me poser quelques problèmes au boulot, mais mon employeur m'a dit que j'avais l'avantage de la diversité, ce qui est quand même quelque chose d'assez violent à entendre, ou sinon c'est à l'école, on me demande si on est adopté. En fait, c'est comme si les personnes de couleur noire ne pouvaient pas faire partie de l'histoire de France. On l'a encore vu récemment avec le pataquès fait par l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, et heureusement qu'elle est rentrée au Panthéon. Bref, c'est comme si on était toujours à côté, et parfois on se demande si on fait vraiment partie de ce pays. C'est assez violent. Moi, j'adore Hino Ferrer, mais par exemple, j'ai jamais compris pourquoi il voulait être noir.
vous avez quel âge, Jérémy ?
J'ai 35 ans.
35 ans. Et du coup, la question que je me pose, parce que ça viendra dans notre conversation, est-ce que vous avez eu dans votre jeunesse, dans votre vie de jeune adulte, un modèle, quelqu'un à qui vous pouviez vous référer, auquel vous pouviez vous référer? Est-ce que vous avez eu ça?
Ou ouais, dans le sport ou dans la musique, mais jamais en fait des modèles français. Toujours des personnes de couleur noire, mais souvent de nationalité
en fait.
Américaine. Voilà, tout à fait. Ouais.
Merci beaucoup, Jérémy. Jolie entrée en matière. Vraiment, on vous remercie mille fois pour discuter ensemble jusqu'à 20h, répondre à vos questions, écouter vos témoignages. Maï Traoré est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes proviseur à Paris. Vous avez écrit « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». C'était publié chez Robert Laffont l'année dernière. Et puis, Laetitia Elouette est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes haute fonctionnaire. Vous êtes présidente du club 21e siècle. Et c'est fou, je vous pose la question à toutes les deux, parce que ce que raconte Jérémy, qu'on voit aussi dans le documentaire, vous le racontez aussi, on a l'impression que c'est ça le passage obligé, en fait. C'est, mais toi, sinon, d'où tu viens, Maï Traoré ?
Eh bien, je suis suédoise.
Oui, alors voilà, vous répondez ça, vous, c'est formidable.
Oui, parce que ce que dit l'auditeur est très juste. C'est la question, c'est le supplice de la goutte d'eau, c'est le voilà, à chaque endroit où on se trouve dans la vie de tous les jours, cette question elle est récurrente, elle arrive et on ne peut pas savoir. Alors, il faut faire le distinguo entre la question d'ordre de curiosité, de connaissance.
Parce que ça arrive aussi.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Qui est totalement saine et qui est complètement normale. Parce qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame. Et puis, la question, elle, chargée, enchaînée, engagé de tout un stéréotype de savoir d'où vous venez, parce que c'est truffé de méfiance, de défiance, parce que justement vous n'êtes pas à la place où on souhaiterait vous voir assigné. Et c'est ça. Et à ce moment-là que ça devient très problématique et dramatique, et qu'il faut absolument arriver à déconstruire pour arriver à mettre l'ADN d'un baromètre, d'une société qui fait sens, où il faut arrêter à un moment donné de dire « je suis français parce que j'ai une couleur différente ». Donc que signifie la citoyenneté par rapport à la couleur ? Est-ce que noir est une culture ? Est-ce que noir... Voilà, c'est documentaire.
Ni une culture, ni un métier, comme d'autres m'ont dit avant.
Absolument.
Vous vous déconstruisez par l'humour souvent, mais en même temps, je veux bien imaginer...
L'humour
Laetitia...
combatif.
Ouais, hein, voilà. Mais je veux bien imaginer un moment... Laetitia Alouette, qu'à un moment il y en a marre et qu'on n'a plus la ressource de l'humour. Ou est-ce qu'on l'a toujours ? Est-ce qu'on a aussi... Parce qu'on en parlera tout à l'heure, moi ce qui m'a frappé dans le documentaire, c'est aussi ce qu'un certain nombre de gens intègrent, en fait. Et donc est-ce qu'on intègre que la question viendra et donc on se prépare à y répondre, celle-là comme d'autres d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on finit parfois par avoir envie de mettre les pieds dans le plat ?
Eh bien, moi, j'ai envie de répondre qu'à cette question-là, les réponses sont très diverses. C'est ce qui est aussi intéressant dans le reportage. C'est-à-dire, dans le reportage, dans le fond, au travers d'une couleur de peau, il y a une diversité extrêmement grande de parcours et de manières de prendre la question. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que pendant longtemps, j'ai joué cette stratégie qu'on appelle l'effacement. C'est-à-dire, moi-même, plutôt que d'assumer cette question-là, j'ai été d'une politesse extrême en essayant de gommer, en essayant de faire de l'humour pour mettre tout le monde à l'aise, et en étant vraiment dans une suradaptation. Donc, pour moi, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Ce qui est sûr, c'est que être noir en France, dans beaucoup de milieux, ça renvoie ou à la discrimination dans certains cas, ou à des biais inconscients. Et les biais inconscients, c'est encore autre chose. Et ce que je trouve intéressant, en fait, dans le témoignage qu'on vient d'avoir, c'est que, dans le fond, il commence à esquisser, je me souviens plus de son prénom.
Jérémy
commence à esquisser des sujets qui sont majeurs. Le sujet des rôles modèles. Voilà. C'est vrai que les rôles modèles, moi, quand j'étais petite, les seuls rôles modèles que j'avais étaient blancs. Alors, je suis la première à penser que on n'a pas besoin d'avoir la même couleur de peau que quelqu'un pour qu'il vous inspire. Mais à un moment, la question de l'incarnation a une place ou devient importante. Et quand autour de moi, quand j'étais petite, les rôles modèles que j'avais, alors les miens, ça pouvait être Simone Veil ou Robert Badinter, sont systématiquement blancs. La question qui se pose, c'est que les personnes qui ont une autre couleur de peau ou sont moins valorisées, on a l'impression qu'ils n'ont pas de valeur. Donc, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le documentaire, pour ceux qui vont le voir ce soir, il y a des parcours de réussite extrêmement variés. La question qui se pose, c'est la nécessité, au-delà de champs un peu traditionnels que sont le sport ou le milieu artistique, de mettre en avant ces parcours de réussite. Parce que là, je finis et je vais...
Je vous en prie.
C'est que vraiment, pour moi, derrière en fait, ces parcours de réussite, il y a l'idée aussi de pouvoir... montrer la diversité de la France à tous les échelons de la société et à tous les échelons professionnels, ce qui est important pour la cohésion sociale. Et après, on va parler d'égalité des chances. À un moment donné, on peut avoir tous les dispositifs réglementaires juridiques qu'on veut. Si on n'est pas capable de se projeter, parce que à l'endroit où on regarde, au sommet d'une entreprise ou dans certains secteurs d'activité, personne ne vous ressemble, en fait, on ne se projette pas. Et le premier enjeu en matière d'égalité des chances, c'est cette capacité à se projeter.
Mais justement, il y a ce passage dans lequel vous parlez, Laetitia Alouette, et c'est pour ça que c'est à Maï que je vais demander de réagir, où vous dites, vous, est-ce que je dois servir d'exemple ? En gros, est-ce que je suis l'incarnation que c'est possible, ou est-ce que je suis justement l'incarnation que la discrimination existe et que je suis une exception ? Et comment on répond à cette question-là, Maï Traoré ? Ou est-ce qu'à un moment, cette question, elle vous traverse l'esprit ? Au lieu de vous dire, c'est formidable, je suis là où je voulais être, est-ce que parfois on se dit, je suis l'incarnation de quoi, en fait ?
Oui, c'est vrai, c'est la valeur d'exemplarité. Donc si je suis une exception, c'est dramatique. Si je suis une exception, ça fait peur. Et la société devrait se poser la question de cette peur.
Si vous êtes une exception, c'est un ratage total, en fait, de la société.
Mais bien évidemment, parce qu'on ne peut pas être une exception. Il faut faire sens, il faut faire ensemble. Et moi, le métier qui est le mien, qui est la pédagogie, c'est donner et permettre justement de sortir de l'autocensure. Autocensure, moi, j'ai pu faire preuve lorsque j'étais plus jeune. Donc, je suis arrivée en France, j'avais 7 ans.
Ouais.
Et j'ai suis repartie, c'est ce que je raconte dans mon livre.
Et vous êtes revenue.
Un va-et-vient, donc, voilà. Un va-et-vient entre l'Afrique, le Mali, la France et la ville de Paris, où j'ai effectivement appris, avec une scolarité de primaire, à avoir la bienveillance, à avoir l'ouverture et à avoir la possibilité, et à ne pas me sentir noire. Puisque certains dans le documentaire disent « je deviens noire ». Comment devient-on noire dans le regard de l'autre ?
Absolument.
Donc l'enfance, moi dans mon enfance, c'était pas le cas. Et lorsque je reviens pour étudier en Sorbonne, à Paris 4, les lettres modernes, là, je suis face à ma couleur. Parce que c'est-à-dire qu'on me renvoie, on me renvoie systématiquement à la couleur de ma peau. Donc la valeur d'exemplarité dont on dit, elle doit servir. C'est-à-dire que sortir de l'autocensure et permettre à cette jeunesse, et moi j'ai une confiance absolue à la jeunesse d'aujourd'hui, puisqu'elle s'empare véritablement de sa place de citoyenneté, de sa place dans la société française, pour faire sens et pour justement dépasser ces obstacles-là, obstacles que moi j'ai pu rencontrer en m'autocensurant, en n'osant pas aller, en étant femme et en étant noire.
Et avant de revenir au standard, je voudrais juste poursuivre là-dessus en un mot. Il y a une phrase qui est terriblement émouvante de Jean-Pascal Zadi dans le documentaire, qui dit, d'ailleurs, il y a deux choses qu'il dit. Il dit, moi, j'ai fait tout le parcours qu'on attend des blacks. Donc, j'ai fait
parcours
du rap.
Classique.
Parcours classique. J'ai fait du rap, du foot et les t-shirts. Et puis, il devient ce qu'il est aujourd'hui. Il est réalisateur, il est scénariste. Et il a cette phrase, arrivé pour recevoir ma récompense, j'ai eu un sentiment d'imposture, en fait. Comme si, au fond, on arrive exactement là où on voulait être, là où on est pleinement à sa place, mais quand même dans un fond, Laetitia Alouette, il y a ce côté, je suis pas à ma place, j'ai ce sentiment d'imposture.
Oui, alors moi, je vais vous dire, j'ai pas de sentiment d'imposture.
Eh ben, bravo. Eh ben, tant mieux.
Vous avez bien raison. Je vais vous dire en rajoutant quelque chose, en fait. Quand je vous écoutais, mais il y a 5 ans, en fait, pour moi, il y a cette dimension, en fait, quand on est justement une exception, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est cette question-là qui m'habite. Et la manière dont j'ai choisi de répondre à cette question, c'est de faire en sorte que justement cette exception, si elle peut servir, en fait, d'amorçage à d'autres formes d'inspiration, c'est essentiel. Et dans l'amorçage à d'autres formes d'inspiration, c'est dire à la fois, je me sens pas une imposture, mais alors je suis tout sauf une héroïne. Moi, quand je témoigne de mon expérience, je suis particulièrement attentive aux échecs. Parce qu'il y a, je pense, en France, une conception très figée, très sclérosante de l'échec. Quand on loupe quelque chose, il y aurait une espèce de parcours parfait avec chaque étape à franchir. Et quand on loupe certaines étapes, ça y est, tout est fini. Et quand on est issu de la diversité, quand on est noir, le sujet devient beaucoup plus dramatique ou beaucoup plus tétanisant, c'est qu'on a le droit à zéro échec. Et moi, le message que je souhaite faire passer, c'est moi, j'ai eu des échecs. Et j'ai pourtant pu parvenir à des fonctions qui me plaisent, dans lesquelles je me sens épanouie. Et que pour moi, la question, là où je trouve que j'ai fait des progrès, parce que moi je viens de loin, voilà, c'est une question sur laquelle j'ai tâtonné, la question de ma couleur de peau, voilà, j'ai fait des allers-retours. Et aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est que je me pose plus la question de la valeur, mais la question de ce que je veux faire. Et là, ce passage-là me semble intéressant. Et donc, quand je parlais de la question de l'échec, quand on parlait de la question du témoignage ou être une exception, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que, malgré tout, il y a évidemment une... Comment dire ça ? Nous sommes l'exemple que ces cas-là, ces femmes noires ou ces hommes noirs dans ces milieux sont trop rares. Mais en même temps, nous avons la possibilité aussi, en étant là, de faire en sorte au maximum que les choses puissent bouger.
Isabelle, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Isabelle.
Alors oui, bonsoir Fabienne, merci pour vos émissions et cette thématique. Donc effectivement, je me suis sentie, j'allais dire, visée parce que je suis entrepreneur dans l'industrie du tourisme d'affaires et l'hôtellerie de luxe. Et on a peu de noirs à un certain strate dans l'hôtellerie de luxe. On a beaucoup de noirs en tant que serveur et peut-être dans la restauration, mais à ce stade, il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, moi j'étais entrepreneur depuis 20 ans, justement parce qu'il y avait une trop grande discrimination dans le monde du travail. Il fallait toujours faire plus, justifier, envoyer des CV. Donc mon mari et moi, on a choisi d'être entrepreneurs. Si je peux dire, je ne sais pas si c'est le pire, mais en plus, on est un couple noir. Donc, on n'est pas un couple mixte. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour nous. Et le racisme ordinaire, je l'ai vécu dans le cadre du travail, peut-être pas par les clients, parce qu'au bout d'un moment, on le mérite, mais on a toujours prise pour une Américaine dans l'hôtellerie de luxe. Et peut-être, voilà, plutôt une noire américaine, peut-être pas une française. Dans l'hôtellerie de luxe, c'est par mon travail, je fais toujours plus que les autres, même si j'ai un nom que je suis connue dans cette industrie, mais je fais toujours plus que les autres. Et pour le racisme ordinaire, où on a vraiment senti la différence, c'était pour le logement. Ça, c'est un point crucial. Il y a une méfiance. Vous avez beau avoir tous les papiers, toutes les fiches de paye, on vous cantonne à certains quartiers. Ça, je l'ai vécu. Ça fait, je suis française de naissance, j'ai grandi en Afrique et je suis venue à Paris. On vous cantonne dans des quartiers. Il y a des quartiers, il y a des non-dits, et donc il y a des quartiers où on ne veut pas de vous, à moins d'être copié. Ouais. Voilà.
Merci.
Par contre, j'ai deux enfants, j'ai deux filles, mais je pense que la jeunesse est en train de dépasser ces obstacles. Ils n'ont pas le même problème que nous, ils n'ont pas, ils sont dans une société, grandissent dans cette société, mais en même temps, je leur ai toujours dit, mes filles de 22 ans et 18 ans, il faut toujours faire plus, parce que vous n'avez pas un nom à consonance française.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. Il y a beaucoup de choses dans le témoignage d'Isabelle. D'abord, je retrouve des choses que j'ai lues chez vous, Maïtra Traoré, notamment, ils me prennent pour une noire américaine. Il y a des fois, vous, où vous dites « Ouais, ouais, je suis noire américaine », parce que subitement, le regard change. Vous regarde, vous êtes vachement plus intéressante en étant noire américaine.
Oui,
en fait.
Tout à fait, parce que je transporte autre chose. J'apporte quelque chose qui peut faire rêver, qui peut donner du sens. C'est notamment dans des salons, lors d'expositions, ou dans des galeries, ou dans des quartiers, effectivement, où on vous attend. Et lorsque vous êtes soit spécialiste de l'art africain, de tout le continent africain, qui est très vaste, et on vous interroge là-dessus, parce que forcément, vous avez une connaissance absolument fine de la chose. Et lorsque la présentation étant black, ce qu'on dit black, or, moi, j'aime bien dire noir,
absolument.
Je suis noire.
J'allais vous poser la question, parce que je vous ai entendu dire ça aussi. C'est une espèce de quoi de condescendance, en fait, de dire black au lieu de dire noir, non? Pour ce qui nous concerne, parce qu'il n'y a que nous qui disons ça. Hein.
Condescendance, malaise, ouais. Voilà, aussi un effet de mode. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Et certains noirs s'appellent black eux-mêmes.
Oui, ouais, absolument.
Voilà, donc,
c'est une mode pour certains, c'est ne pas oser pour d'autres. Moi, il m'est arrivé de reprendre des enseignants, des collègues qui me disaient « Oh, mais toi, t'es une black. » Non, je suis une femme noire. Moi, je ne te dis pas que tu es white. Donc, voilà, nous pouvons échanger là-dessus.
Isabelle dit qu'avec la génération d'après, ça va mieux. Est-ce que vous, qui êtes proviseur, donc vous la voyez la génération d'après, est-ce que ça va mieux? Ouais. Est-ce qu'effectivement, il y a plus de fluidité, en fait, qu'il y en a dans la génération que vous avez traversée, vous, ou la mienne, enfin d'autres?
Ah oui, moi, je suis convaincue de cela. Moi, je vois ma génération, je vois l'autocensure que j'ai colportée avec moi, je vois les obstacles que j'ai drainés, mais il est quand même impensable de voir que être noir, on est toujours enchaîné, qu'on transporte encore ces chaînes de l'esclavage maintenant. Et la génération actuelle, les enfants, nos enfants actuellement, portent en eux ce dépassement, cette autorisation qu'ils prennent eux-mêmes. Et moi, je les encourage, je les invite véritablement à transporter cela. C'est-à-dire se poser d'abord en citoyen, en humain, en personne, plutôt que de se poser « mon ami est noir, je suis blanc, je suis asiatique, etc. » Cela, moi, je ne l'observe pas. J'observe une jeunesse qui s'empare, malgré effectivement ce racisme décomplexé qu'on peut entendre, qui nous bouche les oreilles, qui nous bouche la vue et qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux déverser ce déversoir de haine. Malgré ça, il y a quand même une jeunesse qui fait face, une jeunesse qui se pose. Et ça, c'est extrêmement encourageant et énergisant. Et il faut veiller à cela.
Laetitia Alouette, c'est aussi une jeunesse qui parfois se met en colère, ce que votre génération n'a pas fait. Elle se met en colère et on l'a vu, peut-être que c'est Black Lives Matter qui a fait rentrer cette colère-là. Et on l'a dit, cette colère, on déboulonne parfois des statuts s'il le faut pour exprimer cette colère. Il y a tout ça. Ça, c'est les générations des 20 ans. C'est la différence entre la génération des 20 ans et la vôtre ou pas?
Alors, dans les différences, on parlait des rôles modèles.
Ouais.
Je pense que cette génération, elle a aussi la force, même si les exemples ne sont pas assez nombreux dans tous les domaines, de pouvoir puiser des sources d'inspiration dans des domaines beaucoup plus larges que nous. Ça donne quand même de la liberté de pouvoir se projeter dans des héros qui aussi peuvent avoir la même couleur de peau. Dans ce qui change aussi,
Vous parliez de l'affaire George Floyd. Alors, on peut la prendre sous l'angle de la violence. Moi, je la prendrais sous l'autre angle qui me frappe dans cette jeunesse. C'est que la question d'être noir, elle concerne, beaucoup de blancs se sentent concernés par le sujet d'être noir.
Exactement. Alors, j'allais dire, c'est pas la violence, c'est la colère. S'autoriser à la colère aussi.
Une colère, une revendication d'égale dignité. Oui. Et une revendication d'égale dignité qui fait que cette question des noirs, de plus en plus, des personnes qui ne sont pas noires, s'estiment complètement légitime à la porter également. Et là, c'est ce qui change. C'est ce qui change parce que, dans le fond, on peut penser la question de la diversité, la question d'être noir comme un sujet des noirs. Moi, profondément, je pense que cette question de la diversité, quelle que soit la manière dont elle se pose pour des personnes d'origine maghrébine, pour des personnes d'origine asiatique, c'est un sujet de faire France. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet de faire France et c'est un sujet de construire une société plus solide ensemble. Et je pense que cette jeunesse, elle a intériorisé, alors peut-être sans conceptualiser comme je vous le dis là, cette dimension que ce sujet social ou ce sujet des discriminations qu'on peut imposer à certaines catégories de la population, ça nous blesse tous en termes de dignité et ça nous réduit tous en termes en fait de capacité à être et à faire ensemble.
Et vous avez raison, il y a aussi, c'était bien le point du mouvement Black Lives Matter, il y avait des blancs dans ces cortèges-là quand ça a commencé aux États-Unis ou ailleurs, et effectivement ça permet au moins d'avancer d'un grand pas. Lucie est avec nous, bonsoir Lucie.
Bonsoir.
On vous écoute Lucie.
Alors l'émission c'est être noir en France. Pour moi être noir en France ça veut dire être sous-estimé, être l'objet de fantasmes divers et variés, et devoir toujours se justifier d'être noir, quoi, d'où tu viens à chaque fois. Et je vais développer sur le fait d'être sous-estimé, c'est-à-dire, enfin, j'habite à Nice, hein, et j'ai comme habitude d'aller me balader le week-end sur la promenade des Anglais. Donc j'étais sur la promenade des Anglais, et puis à cette époque-là, j'étais au chômage, et je rencontre un monsieur, on a fait connaissance, et puis, donc je lui dis que je suis au chômage, entre autres. Et le week-end suivant, on se revoit, tu me dis, tiens, j'ai pensé à vous, j'ai un ami, il cherche une femme de ménage. Voilà. Je suis prof. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc, je vous laisse, il a pas pu imaginer que je sois ingénieur ou je sais pas quoi d'autre, mais tout de suite, femme de ménage.
Ah ouais. Et comment, qu'est-ce que vous avez répondu? Je suis assez curieuse de ça, en fait, Lucie.
Ben, j'ai rien dit, en fait. J'ai pas voulu me justifier. Enfin, j'étais en colère, mais je voulais dire, c'est pas la première fois, quoi. Donc, je sais.
J'ai une réponse.
Alors, tiens, elle a une réponse. Donnez-la nous, votre réponse, Maï Traoré, parce que vous aussi, pardon, mais toutes les deux, en fait. C'est ça qui est très frappant, hein, chacun à votre niveau. Vous, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, vous êtes forcément la nounou.
Oui.
Il y a cette scène dans votre bouquin qui est démente où, la directrice de la maternelle de votre fille ou de votre fils, vous êtes des filles, vous explique, voilà comment marche l'école française et c'est vous la patronne, donc le lendemain elle s'en rendra compte. Et pour vous Laetitia Elouette, il y a cette scène où vous racontez quand vous êtes avec votre collaboratrice blonde, il n'y a rien à faire, c'est vers la collaboratrice qu'on va avant d'aller vers vous. C'est fou parce que c'est une histoire universelle qu'est en train de nous raconter Lucie et que vous racontez toutes les deux en fait.
Absolument, ce que dit l'auditrice, elle a parfaitement raison et je comprends qu'elle n'ait pas pu avoir de réponse à apporter tellement elle est stupéfaite d'entendre cela, mais on est dans la caricature totale. La réponse souvent par boutade, c'est « Ah bien, moi aussi, vous n'en auriez pas ?» Voilà. Donc peut-être que ça renverrait à... Et puis ensuite, on développe. Et quand je parle d'humour combatif, quand je parle de faire acte de pédagogie, c'est arriver à déboulonner dans les esprits ces schémas-là, ces schèmes de pensée-là qui sont posés et qui sont véhiculés, qui sont entraînés, qui sont endigués, qui sont mais totalement drainés de génération en génération. Mais ça suffit. Être français, ce n'est pas une couleur de peau. Être français, c'est sens commun, c'est faire ensemble, c'est avoir un baromètre qu'on partage, avoir une grille de lecture de la société. C'est d'abord voir l'être humain, voir les compétences de cette personne-là, effectivement, que de se dire, effectivement, elle est noire, donc elle ne peut faire que des tâches, elle ne peut exécuter que des tâches, où on ne lui demandera pas de réfléchir, on ne lui demandera pas de prendre des décisions, des tâches d'exécutant. Et c'est insupportable et c'est extrêmement blessant.
Allez-y, Laetitia Elouette.
Alors, moi, j'ai envie de vous dire que vous avez raison parfois, mais pour moi, il faudrait faire attention de ne pas généraliser. C'est-à-dire que sur la question, en fait, des stéréotypes en termes de métier, moi, je suis pas sûre qu'à chaque fois, il faille parler de racisme. Voilà, dans l'exemple que je cite avec ma collaboratrice, ce que je dis aussi, c'est tout simplement... La question se pose pour les femmes, parfois, quand on arrive à une réunion et que la patronne est une femme.
On va directement vers l'homme.
On va directement vers l'homme. Ouais. Et alors, en plus, quand on est une femme issue de la diversité, alors là, on devient un véritable ovni, dans la représentation de ceux qui sont autour de nous, mais y compris s'ils sont issus de la diversité. La question, en fait, de l'incarnation qui va bien avec le poste, c'est pas celle qu'on nous prête. Mmh. Donc, pour moi, c'est une autre question. C'est une question de biais de représentation et c'est une question surtout de d'être capable aujourd'hui. Des choses ont avancé, mais je trouve que franchement, beaucoup reste à faire. C'est comment est-ce qu'on est capable de mettre davantage en avant des exemples de réussite qui ont toutes les incarnations et tous les genres. Donc je pense vraiment que à la fois cette notion de racisme, de discrimination, je l'ai vécu, je l'entends, mais que cette dimension aussi que pour avancer en matière d'acceptation de la diversité, d'acceptation de la couleur de peau, il y a évidemment un travail chez ceux qui n'ont pas cette couleur de peau, ceux qui sont blancs ou qui ont d'autres formes d'incarnation. Mais que de la même façon, moi pour l'avoir vécu, vous le disiez aussi, moi les biais inconscients, moi le fait de me dire que pour réussir dans la vie, comme j'étais noire ou comme j'étais issue de l'aide de l'immigration, j'avais 6 tonnes sur chaque épaule et que mon sujet c'était le zéro faute, mais je reparle de la question de l'échec. Oui. Le zéro faute, c'est que moi-même, j'avais intériorisé, en fait, en quelque sorte des biais, mais qui sont des vrais obstacles aussi pour réussir. Donc, ce que je dis, pour que ça soit...
C'est des obstacles personnels,
exactement.
C'est des obstacles culturels.
Exactement.
Mais je pense qu'il y a quand même une double peine. Le stéréotype de se dire, je pense qu'il n'aurait jamais proposé de poste de femme de ménage si la rencontre, elle était aussi suédoise et blonde à forte poitrine. Excusez-moi le terme, mais bon, voilà. À un moment donné, ça vient systématiquement du fait de la couleur de peau qui s'ajoute au genre aussi. Donc, tout est un peu mélangé.
D'accord.
Moi, je souhaiterais revenir sur la valeur d'exemplarité. Il serait aussi temps que dans la société de 2020, 23 bientôt, de ce siècle qui avance à grands pas, qu'on donne à voir énormément de personnes diverses occupant des postes dans la sphère de la société, des sphères hautes.
J'allais vous poser la question parce que des rôles modèles, comme on dit, des modèles, enfin, appelons-les comme on voudra, oui, il commence à y en avoir, par exemple, je repense à Yannick Noah qui n'en avait qu'un, c'était Arthur H, il n'en avait pas deux. Aujourd'hui, dans le sport, effectivement, ça existe. Dans la chanson, ça existe, enfin, alors on ne va pas forcément les chercher en France, d'ailleurs, mais les Beyoncé, etc., ont à la fois la bonne couleur, si je puis dire, mais aussi le bon discours qui va derrière. Mais il n'y a rien à faire. Ces années-là, quand on regarde la liste des Français préférés des Français, ils sont sportifs, ils sont acteurs, etc. Mais dans vos domaines, quels qu'ils soient, qui ne soient ni sportifs ni artistiques, etc., ça, on ne sait pas mettre en avant, visiblement. Enfin, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi ça n'existe pas ?
Et c'est là tout le drame, parce que ça existe. Pendant la pandémie, je m'étais interrogée devant la télé, quand je voyais aux 20h, des médecins venir témoigner de la pandémie qui nous a tous attaqués dramatiquement sur l'Hexagone. N'y a-t-il pas de médecins noirs, femmes, qui puissent venir témoigner sur les grandes ondes, aux grandes écoutes, de chirurgiens, d'avocats, de personnalités autres qu'on peut inviter aussi pour parler de ça. Donc cette valeur d'exemplarité-là, elle est un peu cachée.
Vous le faites ça, Laetitia Louette, par exemple, ou pas ? Si on vous invite dans une école, par exemple, pour vous parler de votre expérience parce que vous êtes une femme noire, est-ce que vous dites oui, je le fais, je sortirai, je serai l'exemple des gamines qui étaient là ou pas ? Vous le faites ça ou pas ?
Alors, quand on me demande d'intervenir, c'est souvent sur la totalité de mon parcours. C'est aussi un parcours d'évolution sociale. C'est un parcours qui est lié aussi à l'origine. Et donc, il y a cette globalité-là qu'il faut, de mon point de vue, restituer.
D'accord, mais vous le faites, cela dit. Et est-ce que ça marche ?
Enfin, je le fais en écoutant Maï. En fait, ce que je me disais, c'est que là, il y a une dimension en fait où on est dans des relations individuelles. Il y a aussi pour moi une responsabilité de l'État ou une responsabilité collective. Ce qu'on a fait depuis des années, manifestement, ne marche pas.
Oui.
Et une des choses qui ne marche pas, c'est qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que la question de la couleur de peau, pendant longtemps, on ne pouvait pas la nommer. Et aujourd'hui, encore dans beaucoup de milieux, on ne peut pas la nommer. Et la question qui se pose, c'est quand on n'est pas capable de nommer un sujet, comment est-ce qu'on peut le traiter ? La question des femmes, puisque j'ai fait le parallèle avec les femmes, on a pu commencer à le traiter, parce que déjà, le nommer ne posait pas problème, c'était une question universelle, mais c'est parce qu'on a commencé à évaluer, à mesurer la place des femmes, qu'on a pu faire des progrès qui sont significatifs, même s'il reste encore pas mal d'avancées à conquérir. Donc,
pour moi, vraiment, un des sujets sur lesquels on doit s'interroger, c'est notre manière de traiter la question. Dans notre manière de traiter la question, quand on parle de biais en conscience, je pense que vous étiez d'accord avec moi, quand on parle aussi de biais inconscient à la fois chez les personnes issues de la diversité et chez ceux qui n'en sont pas issus, qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif aussi pour avancer? Je pense que la question du mentorat, il n'y a aucune réponse magique, mais c'est une réponse extrêmement pragmatique qui permet de jouer sur les stéréotypes de part et d'autre. Les questions qu'on se pose en matière d'égalité des chances. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, parce que en partie la question de la couleur de peau recoupe aussi les différences sociales. Voilà, en matière d'égalité des chances, à un moment donné, quand je vous disais, si on n'est pas capable de proposer aux enfants qui sont dans des secteurs où il y a une forme d'exclusion territoriale ou en tout cas de fragmentation territoriale. S'ils ne voient pas d'exemple de réussite, ce qui est frappant, c'est qu'ils ne pensent même pas à avoir un autre métier. Donc, tout cela, aujourd'hui, me semble très en retrait par rapport à l'ambition qu'on devrait avoir.
Bien sûr. Il est urgent de construire ensemble, parce que les jeunes générations dont on parle, et moi qui m'intéresse fortement, puisque au sein de l'établissement scolaire, mes journées sont rythmées par la jeunesse, c'est qu'il est urgent de construire ensemble. C'est qu'il est urgent de faire une société plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle. Et ça doit répondre aux questions qui nous gouvernent et qui doit ramener vers notre devise républicaine qui est liberté, égalité, fraternité. Mais amener et permettre à notre jeunesse, à la jeunesse française, c'est la jeunesse française. Arrêtez de dire troisième génération, quatrième génération, jusqu'où on va aller avec ça. Donc arriver, et ce documentaire, il est positif dans la mesure où il ouvre cette perspective de on se projette, on avance, on va ensemble. Et donc, faire ensemble que la devise puisse parler et que la société puisse être plus juste, plus égalitaire et plus fraternelle, c'est extrêmement important. Et c'est cela qu'on doit comprendre à l'issue de ce documentaire, me semble-t-il.
Je partage complètement.
Eh bien, formidable. Merci. Bonsoir Jean. Merci aussi, mais bonsoir Jean surtout.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, écoutez, moi c'est juste une petite anecdote, on peut l'appeler comme ça. C'est un témoignage, si vous voulez.
Allez-y.
Voilà que je me trouve quelque part et je suis en train de parler. Il y a une personne, on pourrait dire de type européenne, qui me dit, écoutez, monsieur, mais vous parlez bien français pour un noir. Alors, ça m'a surpris.
Maïk qui se marre parce qu'elle l'a entendu aussi 30 fois, je crois.
Vous n'avez pas d'accent pour
voilà,
elle.
Voilà.
Et vous n'avez pas d'accent.
Cette interrogation, si vous voulez, peut-être était-elle superficielle, mais à mon sens, elle traduit une forme de racisme, on peut dire, inconsciente. Cette forme-là, elle est vraiment inconsciente, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que, dans les activités, dans les rencontres, qu'il y ait plutôt un regard d'une personne, c'est tout. On regarde une personne, mais vous parlez français, on vous dit, mais écoutez, vous parlez bien français pour un noir. Écoutez, madame, je suis ingénieur, je suis docteur ingénieur, si vous voulez, mais la personne ne pouvait pas le savoir. Peu importe, mais c'est inconscient, vous voyez. Ça ne m'a pas gêné du tout, parce que j'en ai rencontré beaucoup d'autres qui sont plus graves, mais celle-là, cette forme d'anecdote-là, je me suis permis de vous appeler pour
mais ça, vous avez bien fait, Jean, et on vous remercie beaucoup. Et je trouve que vous parlez vraiment très bien, Jean. Merci beaucoup, merci vraiment.
Merci.
Laetitia Elouette, c'est fou, parce que moi, ce que j'adore dans le témoignage de Jean, c'est que c'est un peu ce qu'on disait au début, il se rend bien compte qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de méchanceté, mais qu'est-ce qu'on trimballe, quoi? Qu'est-ce qu'on trimballe? Et c'est fou, comme nous aussi, les Blancs, ce qu'on trimballe, c'est fou comme on l'a pas laissé en route, en quelque sorte. Et vous savez, pardon de vous interrompre, mais je suis bien obligée de vous l'avouer, quand vous racontez l'anecdote où on va directement vers votre collaboratrice et pas vers vous, en regardant le docu, je me suis dit, oh, mon Dieu, pourvu que j'ai jamais ce réflexe-là. Et en fait, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, en fait.
En fait, on n'en sait rien. Et j'allais vous dire, moi-même, est-ce que j'aurais pas la même surprise en voyant une femme noire à un poste très important arriver à une réunion?
Ouais.
Dans le fond, cette question aussi de l'image qu'on se fait de certains métiers, il faut aussi, je trouve, avoir cette ouverture. C'est-à-dire que, à la fois, dans tout ce qu'on dit, vous êtes proviseur, moi je dirige une école de sciences politiques, il y a un vrai sujet de transmission, il y a un vrai sujet d'éducation à la diversité. Mmh. Je pense qu'on s'est emparé la question de l'éducation au genre et à l'ouverture du genre. Il reste du travail, mais on s'est emparé de la question. Il me semble que la question de l'ouverture à la diversité dès la petite enfance, elle n'est pas encore adressée. Et qu'à la fin des fins, on sera parfait, mais j'espère qu'on arrivera quand même à rire ensemble de nos différences. Mmh. C'est-à-dire qu'un des sujets ou un des risques, c'est que la fraternité que vous appelez, moi je la partage complètement, cette fraternité, elle suppose aussi qu'on puisse rire, partager et parler de sujets, c'est-à-dire qu'un blanc ait le droit de parler des noirs et inversement, c'est-à-dire voilà, qu'on n'ait pas cette espèce de dimension un peu de chacun sa catégorie et chacun aura le droit de parler des femmes uniquement parce qu'il est femme ou des noirs uniquement parce qu'il est noir.
Sortir des couloirs,
exactement,
avancer ensemble.
Sortir des couloirs de nage.
J'ai été très touchée récemment du film de Robert Guédidian, Twist à Bamako, parce que Robert Guédidian s'empare d'une histoire malienne,
qui est blanc, totalement malienne. Et vous faites bien de le dire.
Il est
parce
blanc,
que...
vous dites, Fabienne. Mais, donc il est blanc.
Absolument.
Et pour moi, c'est un malien.
Absolument. Et vous faites bien de le dire parce que ça fait aussi partie des débats qu'on entend aujourd'hui,
absolument,
qui sont plutôt des débats outre-Atlantique qui disent il faut.
Autorisons-nous, autorisez-vous. Et la jeunesse qui nous écoute ce soir et qui vous écoute, et les parents, autorisez-vous à dépasser les sphères et à vous emparer de votre société. Construisons ensemble la nation unie France, plus juste, plus libertaire. Plus de liberté et en plus de justice.
Ouais, et puis moi je finis sur le documentaire
très
d'aujourd'hui.
Très vite, ouais.
C'est que c'est un documentaire qui porte sur les Noirs, mais c'est un documentaire qui porte sur les Français.
Ouais, bien sûr.
La question, c'est bien une autre manière d'exprimer en fait ce qu'être français veut dire.
On n'a pas eu le temps de passer Maude, mais je vous embrasse. Maude, vous nous dites que vous êtes la maman d'une petite métisse qui a 22 ans maintenant, une jeune métisse. Elle a suivi sa scolarité à Chambéry en seconde. Elle était très heureuse parce que pour la première fois, elle avait un ancien nom noir et elle était heureuse que ça arrive. Et puis il y a Gab qui nous dit, je vous écoute avec beaucoup d'émotion. Je suis une femme noire de 42 ans, j'ai un parcours très conforme, j'essaye de faire bien. Mais lorsque je suis noire et que je commets une infraction, je sais que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, etc. Et Gab nous dit, et non, je n'aime pas le soleil. On vous embrasse, Gabon. On vous remercie vraiment tous pour vos très nombreuses questions. À très bientôt.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.